Aristote. Traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Leçon de physique. Livre 1. Des principes de l'être. Chapitre 1er. Sommaire. De la méthode à suivre dans l'étude de la nature. Il faut procéder d'effets particuliers et composés qui sont pour nous les plus notoires et les plus clairs, et remonter par l'analyse jusqu'aux principes universels, aux causes des choses et à leurs éléments simples, qui sont les plus clairs et les plus notoires en soi. Exemple des noms par rapport à la définition. Exemple des enfants. Paragraphe 1. Comme on ne parvient à comprendre et à savoir quelque chose dans tout sujet de recherche méthodique où il y a des principes, des causes et des éléments, que du moment où on les connaît, car on ne pense jamais connaître une chose que quand on en connaît les causes premières, les principes premiers et jusqu'à ces éléments. De même aussi, pour la science de la nature, il est évident que l'on doit tout d'abord prendre soin de déterminer ce qui regarde les principes. Paragraphe 2. La marche qui semble ici toute naturelle, c'est de procéder des choses qui sont plus connues et plus claires pour nous, aux choses qui sont plus claires et plus connues par leur propre nature. En effet, les choses qui sont notoires absolument et les choses qui sont notoires pour nous ne sont pas les mêmes. Et voilà comment c'est une nécessité de commencer par les choses qui, bien que plus obscures par nature, sont cependant plus notoires pour nous, afin de passer ensuite aux choses qui sont naturellement plus claires et plus connues en soi. Paragraphe 3. Ce qui est d'abord pour nous le plus notoire et le plus clair, c'est ce qui est le plus composé et le plus confus. Mais ensuite, en partant de ces composés mêmes, les éléments et les principes nous sont rendus clairs par les divisions que nous en faisons. Paragraphe 4. Ainsi donc, il faut s'avancer du général au particulier, car le tout que donne la sensation est plus connu, et le général est une espèce de tout, puisque le général contient dans son ensemble une foule de choses à l'état de simple partie. Paragraphe 5. C'est un rapport assez analogue à celui-ci que les noms des choses soutiennent avec les définitions. Les noms, en effet, expriment aussi une totalité quelconque, mais ils l'expriment d'une manière indéterminée. Par exemple, le mot « cercle », que la définition résout ensuite dans ses éléments particuliers. Paragraphe 6. C'est encore ainsi que les enfants appellent d'abord papa et maman tous les hommes, toutes les femmes qu'ils voient. Mais plus tard, il les distingue fort bien les uns et les autres. Chapitre 2. Sommaire. Des principes. Unité et pluralité des principes. Parménide et Mélissus, les philosophes ioniens et Démocrite. L'unité absolue de l'être implique la négation de tout principe et détruit l'étude de la nature. Thèse d'Héraclite. Erreur grossière de Mélissus. L'être n'est point immobile. Il y a des êtres soumis au mouvement. Méthode des géomètres. Démonstration d'Antiphon. Méthode à suivre pour critiquer les théories antérieures. Paragraphe 1. Nécessairement, il doit y avoir dans l'être ou un principe unique ou plusieurs principes. En supposant que ce principe soit unique, il doit être ou immobile, comme le prétendent Parménide et Mélissus, ou mobile, comme l'affirment les physiciens. Soit qu'ils trouvent ce premier principe dans l'air, soit qu'ils le trouvent dans l'eau. En admettant qu'il y a plusieurs principes, ces principes sont en nombre fini et infini. S'ils sont finis, mais en étant toujours plus d'un, ils sont alors 2, 3, 4 ou tel autre nombre. S'ils sont infinis, ils peuvent être, comme l'entend Démocrite, d'un seul et même genre, ne différant qu'en figure et en espèce. Ou bien, ils vont même jusqu'à être contraires. Paragraphe 2. C'est encore une étude toute pareille que font les philosophes qui recherchent quel est le nombre des êtres, car ils recherchent d'abord si la source d'où sortent les êtres et les choses est un principe unique, ou bien si ce sont plusieurs principes. Puis, en supposant qu'il y ait plusieurs principes, ils se demandent s'ils sont finis ou infinis. Par conséquent, c'est rechercher encore si le principe et l'élément des choses est unique ou s'il y en a plusieurs. Paragraphe 3. Cependant, étudier cette question de savoir si l'être est un et immobile, ce n'est plus étudier la nature, car de même que le géomètre n'a plus rien à dire à un adversaire qui lui nie ses principes, et que cette discussion appartient dès lors à une autre science que la géométrie, ou à une science commune de tous les principes, de même, le philosophe qui s'occupe des principes de la nature ne doit pas accepter la discussion sur ce terrain. Du moment, en effet, que l'être est un, et un au sens d'immobilité, où on le prétend. Il n'y a plus à proprement dire de principe, puisqu'un principe est toujours le principe d'une ou de plusieurs autres choses. Paragraphe 4. Examiner si l'être est en ce sens revient tout à fait à discuter telle autre thèse tout aussi vaine parmi celles qui ne sont avancées que pour le besoin de la dispute, comme la fameuse thèse d'Héraclite. Autant vaudrait soutenir que l'être entier se concentre dans un seul individu de l'espèce humaine. Paragraphe 5. Au fond, c'est simplement réfuter un argument captieux, défaut que présentent les deux opinions de Mélissus et de Parménide, car elles reposent toutes deux sur des prémices fausses, et elles ne concluent pas régulièrement. Mais le raisonnement de Mélissus est encore le plus grossier, et il ne peut pas même causer la moindre hésitation, car il suffit d'une seule donnée absurde pour que toutes les séquences le soient également. Et c'est une chose des plus faciles à voir. Paragraphe 6. Quant à nous, posons comme un principe fondamental que les choses de la nature, soit toutes, soit quelques-unes au moins, sont soumises au mouvement. Et c'est là un fait que l'induction ou l'observation nous apprend avec toute évidence. Paragraphe 7. Mais en même temps, nous ne prétendrons point répondre à toutes les questions, et nous ne réfuterons que les erreurs que l'on commet dans les démonstrations en partant des principes. Nous laisserons de côté toutes celles qui n'en parlent pas. C'est ainsi, par exemple, que c'est au géomètre de démontrer la démonstration que c'est au géomètre de réfuter la démonstration de la quadrature du cercle par les segments. Mais le géomètre n'a plus rien à faire avec celle dont ils font. Paragraphe 8. Néanmoins, comme sans traiter précisément de la nature, ces philosophes touchent à des questions physiques, il sera peut-être utile d'en dire ici quelques mots. Car ces recherches ne laissent pas que d'avoir leur côté de philosophie. Chapitre 3. Sommaire. Critique des théories qui admettent l'unité de l'être. Ce qu'on entend par l'unité de l'être. Acception diverse des mots être et un. Théorie de Mélissus sur l'infinité de l'être et de Parménide sur la finitude de l'être. Confusion absolue des êtres dans la théorie d'Héraclite et de Lycophron. L'être n'est pas un et les êtres sont multiples. Paragraphe 1. Comme le mot d'être reçoit plusieurs acceptions, notre point de départ le plus convenable sera d'examiner d'abord ce qu'on entend quand on dit que l'être est un. Comprend-on par là que tout l'être est substance, ou bien que tout l'être est ou quantité ou qualité? Si tout est substance dans l'être, comprend-on que c'est une substance unique qui est tout l'être? Et par exemple, un homme un, un cheval un, une âme une, qui serait la substance de tout l'être. Si tout est qualité dans l'être, comprend-on que c'est une qualité unique? Et par exemple, que c'est le blanc, le chaud ou telle autre qualité du même genre? Ce sont là des points de vue très différents, mais ils sont tous également impossibles à soutenir. Paragraphe 2. En effet, si l'être est substance et quantité est qualité, que d'ailleurs la qualité, la quantité et la substance soient indépendantes et séparées les unes des autres ou ne le soient pas, il en résulte toujours qu'il y a plusieurs sortes d'êtres. Paragraphe 3. Si l'on dit que les êtres tout entiers sont qualité ou quantité, en admettant d'ailleurs ou en rejetant la substance. C'est une opinion absurde, si l'on peut qualifier d'absurde ce qui est impossible. Car rien ne peut exister séparément si ce n'est la substance, puisque tout le reste se dit comme attribut de la substance qui est le seul support. Paragraphe 4. Mélissus soutient que l'être est infini. À ses yeux, l'être est donc une certaine quantité, puisque l'infini est dans la quantité. Or, la substance, pas plus que la qualité ou l'affection, ne saurait jamais être infinie, si ce n'est accidentellement, c'est-à-dire à moins d'être en même temps considérée comme des quantités à un certain point de vue. La définition de l'infini emprunte l'idée de quantité, mais ne suppose point celle de substance, ni celle de qualité. Si donc l'être est à la fois substance et quantité, dès lors il est deux, et non plus un. Paragraphe 5. Si l'être n'est que substance, il n'est plus infini. Il n'a même plus de grandeur quelconque, car il faudrait qu'il fût une quantité. Paragraphe 6. D'une autre part, comme le mot « un » se prend en plusieurs acceptions, tout aussi bien que le mot « être », il faut examiner à ce nouveau point de vue en quel sens on dit que tout l'être est un. Un se dit pour exprimer qu'une chose est continue ou qu'elle est indivisible. Ou ce mot s'applique aux choses dont la définition essentielle, destinée à expliquer ce qu'elles sont, est une seule et même définition, comme par exemple la définition du jus de la treille et celle du vin. Paragraphe 7. Si par « un » on entend « continu », l'être alors est multiple, puisque le continu est divisible à l'infini. Paragraphe 8. Mais ici, l'on élève sur les rapports de la partie et du tout une question qui, sans tenir peut-être bien directement à notre sujet, mérite néanmoins par elle-même qu'on l'examine. C'est de savoir si le tout et la partie sont une seule chose ou plusieurs choses, de quelle manière ils sont ou une seule chose ou plusieurs. En supposant que ce sont plusieurs choses, comment cette multiplicité a lieu ? Recherche qui peut également s'appliquer à des parties non continues. Et enfin, si chacune de ces parties, en tant qu'indivisible, est une avec le tout, attendu que chacune de ces parties constitue aussi une unité par elle-même. Paragraphe 9. Si l'être est un en tant qu'indivisible, il n'est plus alors ni quantité ni qualité, et il cesse d'être infini comme le croit Médicus. Il n'est pas davantage fini comme le soutient Parménide, puisque c'est la fin, la limite seule qui est indivisible, et non point du tout le fini lui-même. Paragraphe 10. Si l'on dit que tous les êtres peuvent être un parce qu'ils auraient une définition commune, comme par exemple vêtements et habits se définissent d'eux-mêmes, on ne fait plus alors que reproduire l'opinion d'Héraclite. Désormais tout se confond. Le bien se confond avec le mal, ce qui n'est pas bon avec ce qui est bon. Le bien et ce qui n'est pas bien sont identiques. L'homme et le cheval sont tout un. Mais alors, ce n'est plus affirmer vraiment que tous les êtres sont un. C'est affirmer qu'ils ne sont rien et que la qualité et la quantité sont identiques. Paragraphe 11. Du reste, les plus récents, tout aussi bien que les anciens, se sont beaucoup troublés de la crainte de prêter tout ensemble à une même chose l'unité et la multiplicité. Pour échapper à cette contradiction, les uns ont supprimé le verbe d'existence et retranché le mot « est » comme Lycophron. Les autres ont atténué l'expression pour la mettre en harmonie avec leurs idées. Et pour ne pas dire que l'homme est blanc, ils disaient qu'il blanchit. Au lieu de dire qu'il est marchand, il disait qu'il marche. Et tout cela pour éviter, en admettant le mot « est », de faire plusieurs êtres de ce qui est un, supposant sans doute que l'un et l'être ne peuvent avoir qu'une seule acception. Paragraphe 12. Mais les êtres sont multiples, d'abord par leur définition, car la définition de blanc, par exemple, est autre que celle de musicien, bien que ces deux qualités puissent appartenir à un seul et même être, et par conséquent, l'un est multiple, ou bien les êtres sont multiples aussi par la division, comme le tout et les parties. Sur ce dernier point, les philosophes dont nous parlons s'embarrassaient fort, et ils avouaient que l'un est multiple, comme si la même chose ne pouvait pas être et plusieurs à la fois. En ce sens seulement qu'elle ne peut avoir à la fois les qualités opposées, puisque l'un peut exister et en simple puissance et en réalité complète ou en téléchie. Paragraphe 13. En suivant la méthode qui vient d'être exposée, on peut conclure qu'il est impossible que les êtres soient un seul et même être.